7h20, c'est avec Denis Marion qu'on revient sur cette campagne élection québécoise. Vous connaissez l'identité des gagnants de façon très large avec la CAQ. Denis Marion, commentateur politique, ancien maire de Massouville. Bon matin, merci d'être là.
Bonjour Alex.
On revient tout d'abord sur cette envie puis cette exigence des partis d'opposition hier, ben, hormis peut-être le Parti libéral, mais tous ceux qui ont eu des 13-14%, Parti québécois, Parti conservateur, Québec solidaire, qui souhaitent une réforme du mode de scrutin. On s'est entendu que la CAQ puis le Parti libéral, c'est pas à leur avantage,
hein? Non, je pense qu'on a très bien compris que quand M. Legault a annoncé il y a quelques années qu'il abandonnait le projet de réforme du mode de scrutin, c'est parce qu'il envoyait les avantages, il voyait les avantages du mode de scrutin actuel. D'ailleurs, assez évident, là, 41% des votes et 90 sièges sur 125, c'est avec une sacrée majorité, là, à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est le pour ce qui est du gouvernement. Madame Anglade, quand elle regarde ses résultats, quand elle a regardé ses résultats hier matin en se levant, elle a dû dire qu'une réforme du mode de scrutin ne serait certainement pas à son avantage. Elle a un point de plus que les conservateurs. Elle a 21 députés, et le Parti conservateur n'en a aucun. Donc, évidemment, elle, de son côté, elle doit dire aussi que le mode de scrutin actuel l'avantage parce que la très grande majorité de ses élus viennent d'une seule région qui est l'île de Montréal et l'ouest, particulièrement à l'ouest.
Justement, dans son discours, à la suite donc des résultats, elle est venue s'adresser devant ses partisans, ses militants, et bon, en disant « on est le parti de tous les Québécois », mais essentiellement, je comprends qu'il y a des Québécois qui ont voté pour le Parti libéral partout à travers le Québec, mais quand on regarde la représentativité des députés élus, c'est tout dans la grande région de Montréal. Alors, tu sais, je trouve ça un petit peu bizarre, je trouve ça un peu paradoxal lorsqu'elle a dit ça.
En fait, c'est bizarre parce que toi et moi, on a vu le reste de la carte, comme les gens qui nous écoutent, et on a très bien vu que non seulement elle a pas de siège à l'extérieur de la très grande région de Montréal, sauf le Pontiac, elle a un comté dans l'Outaouais, mais M. Legault, de son côté, a deux sièges seulement sur l'île de Montréal.
Oui.
Et on s'entend, là, c'est la majorité de la population qui est dans la grande région de Montréal. Et donc, il y a une fracture actuellement entre le vote sur l'île de Montréal, où les élus sont d'abord libéraux dans un premier temps. Ensuite, Québec solidaire, la même chose pour Québec solidaire, la majorité de ses députés sont sur l'île de Montréal, et deux pauvres petits comtés, probablement fort sympathiques par ailleurs, dans l'est de Montréal pour la CAQ. Et M. Legault a déjà commencé hier à dire, ben, écoutez, il faut qu'on se rapproche de Montréal, il faut que je fasse des efforts, je vais m'en occuper moi-même, a-t-il dit. Parce que cette situation-là, elle est très préoccupante. Une fracture à ce point évidente entre l'île de Montréal et le reste du Québec, bien, c'est sûr que c'est pas à l'avantage du Québec et c'est certainement pas à l'avantage de Montréal non plus. Alors, Madame Anglade, quand elle va se lever à l'Assemblée nationale, elle va avoir la pression de ses députés. Ses députés sont de Montréal et beaucoup de gens à Montréal se sentent pas vraiment à l'aise avec le fait que le premier ministre a cassé du sucre sur le dos des Montréalais pendant la campagne.
Oui.
Pour augmenter son vote à l'extérieur de l'île de Montréal.
Et il y a des dossiers comme le troisième lien qui, il a dit qu'elle allait d'avant, peu importe, c'était quoi les études. Et donc, c'est aussi ce genre de positionnement-là que l'opposition aura à questionner, à critiquer. Puis, je pense aussi à Québec solidaire, qui, hormis à certains endroits, dont Québec et, bon, Sherbrooke, mais il n'y a pas non plus beaucoup de percées en région, ne sont pas capables de s'imposer hors de Montréal, nécessairement.
Ils ont même une trentaine de milliers de votes de moins qu'à l'élection de 2018, ce qui est assez surprenant parce que Québec solidaire semblait être sur une lancée, là, semblait augmenter sa part du gâteau électoral élection après élection. Mais c'est évident que, puis si on revient deux secondes sur la question du mode de scrutin, Alex, c'est évident que là, on a une disproportion là des représentations. Le nombre de députés ne correspond pas du tout au nombre de votes que chacun des partis a reçus. Puis il va se poser des questions, à mon point de vue, dans la société, mais le gouvernement et l'opposition, comme tu le disais au début, probablement vont bloquer la réforme qui pourrait peut-être modifier un peu la façon dont on pourrait envoyer nos députés à l'Assemblée nationale.
Rien pour aider, on n'a plus le temps, mais tu sais, comme au final, on parle beaucoup de cynisme envers la population, rien pour aider non plus ce sentiment de ne pas être représenté par...
Personne ne pourra dire que je suis un militant du Parti conservateur d'Éric Duhaime, là. Mais je pense qu'Éric Duhaime aurait dû être à l'Assemblée nationale et je pense qu'il y aurait des conservateurs qui auraient dû siéger à l'Assemblée nationale pour que cette voix-là s'exprime, d'autant plus que c'est une voix. Beaucoup de gens qui ont voté pour le Parti conservateur sont des gens qui se sentent peut-être un peu à l'écart des courants majoritaires dans la société québécoise. Le fait de les exclure, entre guillemets, là, que le système les ait exclus de l'Assemblée nationale, notre façon de partager nos votes, les a amenés à ne pas être représentés, je suis pas sûr que c'est très sain, très bon pour la démocratie.
Ouais, exactement. Ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup encore, Denis, d'avoir commenté le tout.
Bonne journée.
Bonne journée. Alors, Denis Marion, qui commente la politique.